Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et merci de nous retrouver dans ce nouvel épisode du Book Club. Je suis en très bonne compagnie ce soir. On va parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur. Réécrire l'histoire de l'art au féminin. C'est pour ceux et celles qui ne le savent pas, avant d'arriver chez Mademoiselle, j'ai eu une vie, et oui. Et dans cette vie, qui est toujours la même d'ailleurs, hein, je me suis beaucoup intéressée à la place des femmes dans le monde de l'art, à notamment leur absence et à leur représentation. Donc j'avais très très envie de faire ce book club sur ce sujet, j'en suis ravie. Et je suis très très heureuse aujourd'hui du coup pour parler de ce sujet, d'avoir à mes côtés deux femmes passionnantes, Matilda Tachitska. Est-ce que j'ai bien prononcé ?
Tachitska.
Tachitska, ok, donc j'ai complètement foiré la prononciation,
non, c'était
je suis désolée.
Presque bien, c'était presque parfait.
Et tu es responsable des programmes scientifiques de l'association AWARE, donc pour Archives of Women Artists Research and Exhibition.
Exactement.
On en reparlera un peu plus tard, là je l'ai bien dit.
Parfait.
Et Ludivine Guerre, tu es médiatrice culturelle indépendante, fondatrice de la page Instagram Mieux Vaut Tard Que Jamais, et autrice d'un super livre que nous avons avec nous ce soir, qui s'appelle, j'allais dire Mieux Vaut Tard Que Jamais, Imparfaite, représenter la femme dans l'art occidental, publié très très récemment. Alors, on va parler de plein de sujets, mais avant de se lancer dans cette grande discussion, vous avez remarqué que Sophie, comme souvent sur le Book Club,
presque
est
à chaque
là,
numéro
à mes côtés,
maintenant.
Presque ouais. À chaque numéro. Et Sophie, tu vas nous faire une chronique un peu spécifique, puisque tu vas nous parler d'un livre qui est très injustement passé sous les radars. Et cette chronique, j'en dis pas plus, hein, tu vas nous raconter, mais a été réalisée en partenariat avec la maison Hauteville, la maison d'édition Hauteville, qui nous permet de rendre ce live possible, donc on les remercie au passage. Et je te laisse la parole, Sophie.
Ça marche. Alors, oui, en effet, la chronique s'appelle « Sous les radars » et je vais vous parler de Penelope Renditac. J'ai le livre, la version reliée, juste ici, et ça va apparaître dans quelques instants à l'écran. Vous pourrez le voir plus en détail. En fait, tout simplement, Sous les radars, qu'est-ce que c'est ? C'est une chronique qui va mettre en avant un livre qui vous a certainement échappé et qu'on a envie de mettre en lumière. Et en fait, ce livre mérite votre attention, soit grâce à son intrigue, grâce à son autrice ou son style. Et pour le coup, celui-ci, c'est les trois en même temps.
Ouais, parce qu'il est très
voilà.
Beau.
C'est ça. Oui, il est très joli. Je peux vous le faire passer si vous voulez voir.
Moi, j'ai déjà lu.
Oui. Et en effet, comme tu l'as bien expliqué, ce book club est dédié à l'écriture de l'histoire de l'art au féminin. Et quelle meilleure inspiration, en fait, que la mythologie grecque, finalement. D'ailleurs, quand je vous dis mythologie grecque, est-ce qu'il y a un mythe qui vous vient en tête, comme ça, spontanément ?
Daphné et Apollon.
Pas mal, pas mal.
J'ai répondu direct.
Ouais. Pas mal.
Il y en a plein, il y a les amours de Zeus,
évidemment.
Ces épisodes où il viole surtout des déesses ou des nymphes.
Des drôles d'amour.
L'enlèvement d'Europe.
Oui, voilà, entre autres, ouais. Bon, il y a l'Iliade et l'Odyssée, évidemment.
Mais justement. Ah ben non, mais alors moi je suis beaucoup moins calée en mythologie. Si tu me parles mythologie, je vais penser à Gaïa, la déesse de la terre. C'est la première à laquelle je pense parce que j'aime bien ce nom.
Mais déjà, ça marque une bonne culture générale parce qu'elle fait pas partie des 12 dieux de l'Olympe. Du coup, elle est quand même moins connue que les autres. Donc franchement, beau trait d'esprit.
On a passé l'examen.
Ça rattrape mon inculture à côté de.
Mais non.
Et en fait, cette chronique, tu t'as failli nous spoiler, va parler de l'Odyssée d'Homère, mais plutôt sa version féminine, puisque Claire North, qui est l'autrice, place Pénélope, la femme d'Ulysse, comme personnage principal. Et donc le tome 1, puisque c'est prévu, il est prévu que ce soit une saga, s'appelle Pénélope, reine d'Ithaque, le chant des déesses. Voilà. Donc...
Ok, est-ce que du coup, juste, tu peux faire un petit rappel, c'est quoi l'Odyssée d'Homère? Est-ce que tu peux nous rappeler un peu pour peut-être les personnes pour qui c'est loin? Ouais.
Avec plaisir. Alors, l'Odyssée d'Homère raconte, en fait, fait suite à l'Iliade, écrite par Homère également. Donc, l'Iliade raconte la guerre de Troie et l'Odyssée reprend le retour au pays de tous les guerriers qui ont participé à la guerre de Troie. Donc, les Grecs. L'Odyssée, il s'agit de la ville de Troie face à tous les Grecs. Les Grecs se rendent à Troie pour prendre la ville et en même temps récupérer Hélène. Donc il y a un peu une histoire d'ego entre hommes, évidemment, parce que c'est la mythologie grecque.
Il veut prendre la ville.
Il veut récupérer sa femme. Exactement. Et cette guerre n'a pas impliqué que des hommes, elle a aussi impliqué les 12 dieux de l'Olympe, parce que chacun avait son parti. Pro-Troie, pro-Grec, enfin bon, la guerre a duré 8 ans, donc c'est quand même une sacrée longue guerre, et c'est le cas d'Ulysse, donc le héros de l'Odyssée, donc le mari de Pénélope, qui à la fin de la guerre, donc les Grecs gagnent, il veut retourner chez lui, sauf qu'il a un petit peu énervé un des plus grands dieux de l'Olympe, Poséidon, et du coup celui-ci va lui mettre des bâtons dans les roues, et en fait il va mettre plus d'une décennie à rentrer chez lui. Et donc à Ithaque, une petite île qui est à l'ouest de la Grèce, pour vous situer, et Troie est sur l'actuelle Turquie. Donc un voyage qui aurait dû mettre approximativement 4 heures en bateau va mettre plus d'une décennie. Voilà. Donc pendant ce temps, que fait Pénélope dans l'Odyssée? Eh bien, pendant plus d'une décennie, elle se fait pas mal courtiser, parce que forcément la place est libre, les hommes veulent prendre la place du roi, elle se dit, elle va mettre une combine, elle se dit, je vais... tisser, sur mon métier à tisser, une toile, et quand je l'aurai fini, je choisirai qui je vais épouser. Sauf que, bon, 8 ans, la toile a eu le temps d'être finie 15 fois, et finalement, elle décide de découdre tous les soirs la toile qu'elle a commencé à tisser chaque jour, pour protéger son fils en même temps, enfin, voilà, il y a toute une histoire autour. Et finalement... dans le livre, voilà, mais je vais pas vous spoiler davantage l'Odyssée, en fait.
Et finalement, la là. Fin.
Voilà. Et finalement, voilà, elle attend le retour de son mari. Donc, dans la lecture originelle, en fait, il est facile de comprendre que Pénélope, elle existe que par l'intermédiaire soit de son mari, donc Ulysse, soit par rapport à son fils Télémaque. Elle n'est pas maîtresse de son destin, alors qu'avec Pénélope, reine d'Ithaque, en fait, on ne compte pas du tout les aventures d'Ulysse, parce que finalement, on les connaît déjà. Et c'est plutôt Pénélope l'héroïne, et surtout comment elle a survécu en reine célibataire.
C'est son histoire à elle.
C'est son histoire à elle.
Et c'est là son histoire dans le mythe.
Exactement. Et c'est ça qui est très très bien fait par Claire North, puisqu'elle s'appuie aussi, elle s'appuie sur tous les références historiques. Donc si vous êtes fan de mythologie, c'est chouette. Si vous ne connaissez pas non plus l'Odyssée, c'est quand même accessible. C'est voilà.
Donc, est-ce qu'elle parle dans ce livre?
Pénélope.
Parce qu'elle est connue comme une femme muette, en fait. Mm. Elle a été analysée par une historienne de la littérature anglaise, spécialiste de la culture antique, comme justement ce personnage muet qui incarne la place de la femme dans la culture occidentale. C'est-à-dire qu'elle démontre à quel point le mutisme des femmes remonte à très 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 loin dans notre culture. Et elle donne l'exemple de Pénélope, cette femme qui attend, et la seule fois où elle essaye de prendre la parole, elle se fait taire par son fils, qui lui dit « Mère, tu rentres dans tes chambres, continuez ton beau travail, maintenant c'est moi l'homme à la maison. » Donc je me demandais si dans le livre, elle avait des dialogues.
C'est une très bonne intervention, en fait, pendant toute l'histoire, en remettant dans le contexte, ça fait 10 ans que son mari est parti. C'est la reine, mais à l'époque, être reine, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, c'est un espèce de conseil qui est composé de vieilles personnes et de très, très, très jeunes hommes, puisqu'en fait, il y a 75% des hommes qui sont partis à la guerre. Donc en fait, sur Ithaque, il ne reste plus que des femmes, majoritairement, ou des vieils hommes, ou des très jeunes garçons. Ouais, voilà. Et en fait, elle essaye de se faire très discrète pour ne pas trop attirer l'attention, pour ne pas qu'il lui arrive des bricoles et qu'on ait envie de faire du mal à son fils. Mais grâce, elle s'est fait quand même un réseau de femmes voilà, qui lui sont vouées, de servantes, d'espionnes, etc. Et grâce à tout ça, elle arrive, sans attirer l'attention, à garder le pouvoir, en quelque sorte. Même si les hommes ne se doutent
mais
pas.
Mais elle est obligée d'en arriver là, surtout pour garder le pouvoir.
Oui, c'est ça qui... aussi. Mais c'est assez malin de voir comment elle a des dizaines de prétendants qui sont là pour essayer de la courtiser, etc. Et en fait, elle n'accorde aucune attention à aucun d'entre eux, parce qu'elle se dit, si je commence à accorder l'attention à un, les autres vont être jaloux, ils vont essayer de le tuer, etc. Et ça va faire une guerre civile, tout ça, parce que... Enfin, voilà. Mais c'est
mais
très
ça,
bien
c'est
amené.
C'est des choses qu'on ne lit pas du tout dans l'Odyssée d'Homère, quoi.
Oui, c'est clair. C'est clair, et c'est très intéressant. Et l'autre chose intéressante de ce livre, c'est que l'histoire n'est pas racontée du point de vue de Pénélope, mais de Héra.
C'est qui, Héra?
Alors, Héra, c'est... Tu sais. tu vas le dire.
On la présente souvent comme l'épouse de Zeus, et c'est la déesse qui préside au foyer, si je dis pas de bêtises.
C'est la déesse, la protectrice des femmes. Une fois qu'elle est mariée à Zeus, elle devient la protectrice du mariage, des épouses, etc. Ouais. Et en effet, elle est souvent présentée comme la femme de Zeus. Et accessoirement, c'est aussi sa sœur.
Qui est super jalouse, parce que oui. Voilà, il va voir à droite, à gauche. Elle est présentée un peu comme la marâtre qui prend la tête à Zeus.
C'est ça, exactement. Et en fait, elle ajoute plein d'anecdotes sur tous les personnages, surtout masculins. Et elle en manque pas une. Enfin, vraiment, c'est assez salé, en fait. Le ton est assez... ça pousse vraiment les femmes en avant. Et ce qui la différencie, Héra, de ses belles-filles, qui par exemple, on a Aphrodite, pendant la guerre de Troie, qui a soutenu Paris. On a Athéna, qui a soutenu Achille. Et en fait, Héra, elle prend le parti de soutenir les femmes, elle prend le parti de la sororité. Et son héroïne à elle, c'est Pénélope, qui est un peu oubliée, parce qu'on se dit, bah, c'est une femme, c'est pas très intéressant. Et en fait, du début à la fin, sous l'aspect d'une vieille femme, en fait, les dieux ne peuvent pas apparaître sous leur forme divine. Du coup, elle prend l'aspect d'une vieille femme et elle regarde tout ça de très loin. Personne ne se préoccupe d'elle. Ou alors, comme c'est une déesse, que c'est un peu la classe, chuchoter un peu comme un coup de vent aux oreilles des uns et des autres pour essayer un peu de les guider vers là où elle veut les amener. Et en fait, ce que le livre montre aussi, c'est que les déesses ont aussi leur favori, et que leur favorite, pardon, pour le coup, et que il n'y a pas que les dieux qui choisissent des héros dont le destin va traverser les siècles. Voilà. Et ça, voilà, donc ça redonne sa lettre de noblesse un peu à Pénélope et aussi à Héra, qui n'est pas si terrible que ça montre aussi qu'Athéna était très pénible, par exemple, tu vois. Et donc voilà. Et ce premier tome, en fait, ça appuie aussi le fait que les mythes et légendes qui nous sont parvenus de la Grèce antique comptent principalement l'histoire des héros masculins, que ce soit dans l'art ou dans la littérature, alors qu'en fait, le récit des femmes ne faisait pas assez rêver, ou qu'elles n'étaient pas assez jolies, parce qu'elles étaient seulement vues par ce prisme-là. Et du coup, là, c'est vraiment une lecture intéressante.
Ouais, voilà. En fait, il y a énormément de choses à dire sur les femmes aussi.
Exactement. Et c'est seulement le tome 1, donc voilà.
De l'histoire de Pénélope.
Oui.
Ok, d'accord.
Voilà. Oui, le tome...
Tu sais combien il y aura de tomes ?
Non, pas encore. Okay. Pas encore. Pour l'instant, le premier tome est déjà disponible. Donc dans la version reliée, fabuleuse, que j'ai là, comme vous pouvez le voir, très bien travaillée, à 25€. Et qui est aussi en version brochée. Voilà, à 19,95€. Voilà, donc je le...
Elle peut fournir dans toutes les bonnes librairies.
Exact. Exact.
Très bien. Et voilà. Super. Bah, merci beaucoup, Sophie.
Merci à vous d'avoir écouté, d'être intervenue aussi. Je sens qu'on est une fan de mythologie.
Il faut que tu lises maintenant. Imparfaite.
Mais oui, je sais. Je lui disais qu'on l'avait reçue dans notre bibliothèque et qu'en fait, je me rappelle beaucoup très bien de la couverture et que j'ai pas eu le temps de le prendre. Quelqu'un l'a pris avant moi.
trop tard.
J'irai me l'acheter, promis.
C'est bien d'acheter les livres aussi pour soutenir
exact.
Les autrices et les auteurs. Il le faut. Merci beaucoup, Sophie. Bonne soirée.
Merci à vous. Oui, très bonne soirée. Merci.
Quant à nous, on va faire un petit switch de place. Je mets donc le son en pause. Vous allez nous voir, vous ne nous entendrez pas.
Plein de choses surtout.
Je relance le live parce que je veux qu'on entende vos commentaires du coup.
Ça c'est ton.
Ça c'est le mien. Ça, ouais. Voilà. Du coup, oui, tu disais Ludivine que tu t'es laissé bercer par le oui. récit, la chronique de Sophie.
J'adore.
Est-ce que vous en avez pensé toutes les deux?
Je sais pas qui. C'est à moi, mais je sais pas. Je laisse okay. terre, c'est d'accord. Bon. Non, mais moi ça m'a donné envie de le lire. Ça me fait penser au livre de. Aïe, j'ai oublié son prénom. Catherine Miller, je crois, sur Circé,
ouais.
le personnage de Circé, qui est en rapport avec Ulysse d'ailleurs, puisque c'est une magicienne qui va rencontrer, et donc elle va tomber amoureuse de lui, etc. Et cette autrice, elle aussi a mis au centre de son récit une femme de la mythologie gréco-romaine, mmh. et je l'ai trouvé très puissant ce livre dans toutes les émotions qu'on apprend, qu'elle ressent Circé, enfin elle est. Je sais pas, il y a à la fois sa psychologie, son lien avec la nature, enfin voilà. Mmh. Et du coup, ça m'a évoqué ça, ça m'a donné envie de le lire, ouais.
Donc ça fait partie d'une série de romans qui revisitent en fait.
Oui, il y a le chant d'Achille aussi, de la même autrice.
Mmh. Génial. Ouais. Alors petit rappel du coup pour ceux et celles qui nous regardent ou peut-être qui nous rejoignent. On est avec Mathilda et Ludivine ce soir là pour échanger autour d'un sujet. Qui est réécrire l'histoire de l'art au féminin. Alors, on va se poser plein de questions, hein, à commencer par comment s'écrit l'histoire, qui choisit ce qui fera date ou pas, et au-delà de ça, on va surtout aborder la représentation des femmes dans cette histoire de l'art. Alors d'abord, moi, quelque chose qui m'a personnellement beaucoup marquée quand je me suis intéressée pour la première fois à la place des femmes dans l'histoire de l'art et à leur représentation, c'est tout simplement en allant au musée et en constatant l'absence, ou en tout cas la rareté d'œuvres faites par des femmes comparée à l'omniprésence quasi de femmes nues dans énormément d'œuvres dans les musées. Je vois que ça te fait rire, mais voilà, moi, c'est ce qui m'a le plus choquée au début parce que, tout simplement, je me suis dit, mais comment j'ai pu ne pas voir ?
Oui, parce que moi, j'ai envie de dire, en fait, je ne sais pas comment c'était pour vous, mais pour moi, c'était quelque chose de relativement... Ça m'a semblé assez naturel pendant très longtemps.
Ouais,
c'est-à-dire que notre regard est tellement éduqué de cette manière que je ne pourrais pas dire qu'à l'âge de 15 ans, j'entrais dans un musée et j'étais choquée par... par l'absence des femmes, en fait. J'ai complètement intégré le fait qu'elles étaient très peu visibles. Peut-être pas absentes, j'étais pas dupe à ce point-là, mais qu'elles étaient très peu nombreuses. Ouais. Je pensais vraiment qu'elles étaient très peu nombreuses.
Vas-y. Je voulais rebondir. Et même en ce qui concerne les femmes qui sont très souvent dénudées, idéalisées, voire sexualisées, pareil, moi ça date de quelques années où j'ai commencé à ouvrir les yeux parce qu'auparavant ça avait presque une fonction décorative en fait, tellement ça fait partie du décor de nos musées en Occident.
Des livres, des films, c'est toute une éducation visuelle, toute la culture visuelle. Bien sûr,
Et justement, toutes les deux, à quel moment est-ce que vous avez pris conscience de cette quasi-absence
d'artistes femmes À quel moment c'est arrivé? Mais réponds peut-être.
Moi, c'est vrai que cette question m'a été posée assez souvent, donc maintenant j'ai une réponse assez rodée. c'était en fait assez tard, c'était à la fin de mes études, c'était progressif. Je faisais des études d'histoire de l'art dans une grande école parisienne. Et au début, en plus, j'ai fait pas mal d'archéologie les premières années. Donc, j'étais pas tellement intéressée par des questions de genre. Je pense que c'était au moment de la troisième année où j'ai commencé davantage à travailler sur l'art moderne, où la question a commencé à se poser, mais elle s'est posée chez moi de manière assez complexe parce que c'était pas que la question de l'absence des femmes, et d'ailleurs tout ça c'est lié, hein, mais aussi quelles étaient, en fait, ce qui m'avait frappé, c'est que la plupart des artistes qu'on étudiait étaient des artistes occidentaux. Même pas occidental, mais occidentaux. Donc, pour la plupart français, nord-américains, en fait, et encore nord-américains, ça veut dire états-uniens, blancs. Et moi, n'étant pas française, vous entendez mon accent, j'étais un peu surprise qu'une histoire de l'art que je connaissais par ailleurs, qui était celle de ma région de l'Europe, qui est l'Europe centrale, était complètement absente dans l'enseignement à Paris. Et pourtant, je savais très bien qu'il y a eu énormément d'artistes, hommes et femmes, qui étaient venus à Paris dans les années 20. Il y avait des communautés immenses d'artistes venant du monde entier. Et donc ça, c'était une sorte de signe d'alerte. Donc je ne pensais pas encore en termes de genre, mais je me suis dit, c'est bizarre. Pourquoi on n'apprend pas tout ça? Est-ce qu'ils sont des artistes moins bons, moins importants? En fait, voilà. Alors, au début, il y avait une sorte de naïveté, de remise en cause même par rapport à des connaissances que j'avais déjà. Et puis, progressivement, en effet, j'ai commencé à lire et à croiser, en fait, voilà, des textes du champ, je sais pas, de l'histoire de l'art postcolonial d'un côté, donc vraiment interroger la position centrale de l'histoire de l'art occidental, et les écrits féministes, où je me suis rendu compte qu'en plus de tout ça, on parlait exclusivement des artistes hommes. Et voilà, au moment où en fait, voilà, je suis arrivée à ça, c'était une sorte de big bang intellectuel et un point de non-retour, parce qu'une fois on s'en rend compte et on enlève les lunettes roses, bah en fait
il n'y a plus de retour en arrière.
C'est ça, il n'y a plus de retour en arrière. Et pour toi alors?
Ça y est, j'ai trouvé.
T'as eu le temps de...
Non, mais c'était la première année où j'étais à Paris. Je suis allée voir l'exposition temporaire au Centre Pompidou, donc c'était en 2008, elle au pluriel.
Ah bah.
J'ai été très choquée de voir autant d'œuvres d'artistes femmes. En fait, pour moi, j'avais l'impression que tout un monde s'ouvrait. Alors certes, c'était des artistes récentes, mais vraiment, j'étais comme une dingue. Je me souviens, j'avais soif. Enfin, je suis allée la voir trois fois, tellement il y avait de choses à voir. Et ce qui peut être aussi un problème, d'ailleurs, on pourra en reparler plus tard, parce que beaucoup, c'était des courants très différents artistiques, elles étaient toutes refourguées au même endroit, bon, bref. Et après, oui, à travers mes études, j'ai très vite constaté, oui, qu'il y avait peu d'artistes femmes, et j'étais toujours ravie à chaque fois qu'il y avait un cours consacré qu'à ça, genre les sculptrices au début du XXe siècle. J'étais très contente. Mais sinon, c'était criant, oui, que dans les formations universitaires, ça... C'était brillé par leur absence. Ouais.
Et c'est... Non, je t'en prie.
Non, je voulais juste rebondir sur elle au Centre Pompidou, parce que pour le coup, c'est une exposition qui a été initiée par notre fondatrice, Camille Morino. Donc c'est un projet que je connais maintenant relativement bien, que j'avais aussi découvert à Paris à peu près à la même époque, parce que j'habitais déjà à Paris. Et en fait, pour expliquer pourquoi peut-être tu avais cette impression que c'était un peu sur tout, c'est que c'était pas tellement... En fait, en réalité, on a retenu ce projet comme une exposition temporaire, mais en fait, en réalité, c'est un accrochage de collection du Centre Pompidou. C'est donc vrai, c'était sur les étages... où il y a des collections, et donc il fallait en fait traverser l'histoire du XXe siècle avec des œuvres des collections. J'avais c'est pour ça, en fait, il y avait tous ces mouvements, il y avait le cubisme, le surréalisme, les œuvres textiles, je sais pas, des années 60, 70, les œuvres féministes, explicitement l'art féministes, vidéo, l'art vidéo, etc. Ouais. Parce qu'en fait, le but était de montrer que déjà qu'il y avait un grand nombre d'œuvres qui était dans les collections du Centre Pompidou, certes moins que pour les hommes, mais il y en avait. C'est juste que ces œuvres étaient très souvent dans les réserves. Il y en avait qui sont jamais sorties des réserves, n'étaient jamais dans les salles auparavant. Et après, c'est aussi une opportunité pour Camille et pour d'autres curatrices et curateurs qui ont participé à ce projet, parce que c'était à la fin un projet très collectif qui a relié un certain nombre de personnes au sein du Centre Pompidou. C'était une occasion d'acheter des œuvres. pour la collection. Donc c'est pour ça, en fait, en effet, peut-être le parcours avait l'air, peut-être pas dispersé, parce que c'était quand même organisé par thème, mais très riche. Hein. C'est que c'était pas sur une période particulière. Il y avait une volonté de raconter l'histoire de l'art.
J'avais complètement oublié ça, avec ça, ouais. Ça répondait vraiment avec les collections. Ça,
et alors, du coup, justement, sur vos parcours respectifs, sur vos parcours respectifs à toutes les deux, qu'est-ce que vous avez fait comme, comme étude, justement, est-ce que vous avez étudié l'histoire de l'art? Toi, c'est le cas?
Oui, j'ai fait une licence puis un master. J'ai fait ça d'ailleurs en formation à distance avec la fac de Lille, puis un master à Nanterre qui a ouvert au moment où je devais entrer en master. Comme ça, la journée, je pouvais être en stage ou travailler aussi. J'ai ouvert mon statut d'auto-entrepreneur en même temps aussi.
Bref, wow, débrouillarde, hein.
Total.
Et pourquoi je disais ça? Et oui, donc tu m'as demandé notre parcours.
Sur l'histoire de l'art, ouais. Est-ce que tu as étudié l'histoire de l'art, justement, tu disais
Oui, voilà. Et c'est vraiment avec mon mémoire de recherche durant mon master, donc, en 2016, où j'ai eu un vrai déclic, qui a été un peu le point de départ de mon approche que j'ai aujourd'hui, féministe. Il portait sur... peut-être que j'en parlerai plus tard, parce que je suis en train de dérouler, là.
Mais vas-y, dis-nous, parce que du coup, tout le monde a envie de savoir maintenant sur quoi portait ton mémoire.
Oui, moi aussi, je suis curieuse. Vas-y, vas-y. Oh,
c'était sur Nini Lopez. Donc, Nini Lopez, c'était une modèle de Pierre-Auguste Renoir. Et en fait, elle a posé pour lui au tout début de sa carrière, dans les années 1870. Et j'ai vu qu'à partir du moment où il a peint, elle avait un physique... très reconnaissable, avec la petite bouche en cœur, le nez très fin, les yeux bleus, les chevelures blonds, rousses. Et il a répété ce type physique de femme après tout au long de sa carrière à partir d'elle. Et ça faisait quelques années que je lisais sur l'histoire des femmes en Occident. Et donc là, j'étais obligée de me pencher sur l'histoire des femmes au 19e siècle. Et... pour croiser avec l'histoire de l'art, comment est-ce que Pierre-Auguste Renoir percevait les femmes de manière générale, quel lien il avait avec cette modèle, etc. Et comment il en est venu à la représenter ainsi dans ses tableaux, pourquoi il a répété ce type de physique, etc. Et en fait, du coup, ça a vraiment germé à partir de ce moment-là, et après j'ai tiré le fil, et là...
Tu l'as lancé quand, ta page Instagram?
C'était... là où j'ai vraiment commencé à publier, c'était en 2020, lors du premier confinement.
Qu'est-ce qui t'a fait justement les déclics de te dire je sais tout ça, je sais des choses, et j'ai envie d'en parler aussi pour partager ces connaissances avec plein d'autres monde.
C'est suite à un stage que j'ai fait chez Artips. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une newsletter sur l'art qui raconte une anecdote sur une œuvre d'art qu'on reçoit deux fois par semaine aujourd'hui. Je ne sais plus où ils en sont. C'est gratuit, voilà, petite newsletter. Et j'étais au pôle rédaction. Et du coup, on m'a appris vraiment à parler d'histoire de l'art, à vulgariser l'histoire de l'art. Donc déjà, j'ai eu cette envie de continuer comme ça.
On a le setup qui se casse la figure. Tout va bien. C'est pas grave, ça ne se voit pas.
En plus, tout est dans la même couleur.
Oui,
voilà, c'est, j'espère juste que le reste ne va pas se casser la figure. Il n'y a rien à cacher derrière.
C'est... Les cartons.
Non.
Qu'est-ce que je disais? Oui, donc c'est ça qui m'a donné envie de vulgariser et d'ouvrir mon statut d'auto-entrepreneur pour être médiatrice culturelle. Et. Dans la foulée, j'ai ouvert mon site internet qui, ensuite, j'ai transposé en compte Instagram. Mmh. Et je publie encore sur le site internet, mais beaucoup plus rarement. Et le premier confinement s'y est parfaitement prêté, puisque les musées fermés, etc. Et les gens avaient envie de voir de l'art autrement. Ouais. Voilà, pour résumer.
Ok. Et Mathilda, de ton côté, quel parcours as-tu eu et comment t'en es arrivée à Aware, justement?
Je pense que j'ai eu un parcours un peu plus... classique, en fait, même si peut-être les parcours classiques n'existent pas, mais au sens où j'ai pas eu l'initiative pendant mes études de créer un compte. Et d'ailleurs, Aware n'est pas un compte personnel. Aware est un projet d'équipe, donc moi, j'incarne pas Aware. Tout simplement, je travaille pour l'association et je co-définis les contenus qu'on met en ligne avec mes collègues. Donc en fait, c'est pas tout à fait la même démarche. Moi, j'ai fait des études classiques en histoire de l'art, donc c'était à l'école du Louvre. Et c'est là où, en effet, j'ai suivi des cours assez académiques hein, de l'histoire de l'art. Pas, pour autant, passionnant. J'ai pas tellement envie de remettre en cause tout ce que j'ai appris dans cette école parce que j'ai appris aussi beaucoup de choses. J'ai appris à regarder des œuvres, à prêter attention à des collections, etc. Donc, c'était aussi une formation très utile, mais en effet, qui manquait d'approche critique. Je crois que maintenant, ça a un peu changé, mais à l'époque... on n'était pas tellement dans une relecture critique du discours même de l'histoire de l'art. Donc on pouvait, si on avait, on ramenait pas tout ça, en fait, on lisait pas à côté, on pouvait vraiment finir ses études en pensant qu'il y a une manière d'écrire. Et j'ai eu la chance de m'en apercevoir quand même, et c'est ça, comme je dis, a été un déclencheur. Par ces deux biais, à la fois géographique et celui du genre, ce qui m'a aidé beaucoup, c'était un an d'études dans le contexte anglo-saxon, en Grande-Bretagne, où, en effet, cette approche critique est beaucoup plus développée, où on s'est enseigné dans les universités. Donc, moi, j'ai passé un an à lire beaucoup, beaucoup de textes. C'est là où j'ai découvert des autrices féministes anglaises, américaines. Comme je disais, c'était un point de non-retour. Je crois que le décor continue à tomber. On va voir ce qu'il va révéler à la fin.
Tout ne va pas tomber, heureusement, mais ça va finir par tomber, c'est sûr.
Et donc, je suis arrivée à Ewer il y a quelques années, il y a presque 4 ans. Et depuis, je conçois les différents programmes de recherche, différentes formes de types de contenu qu'on met en ligne. Donc, Ewer est une aventure qui est plus ancienne que ma propre aventure à l'intérieur de cette association. Donc, c'est un projet associatif qui a été fondé par Camille Morino, dont je parlais tout à l'heure, et d'autres collègues à elle en 2014. Donc, on aura bientôt 10 ans. Donc, c'est un projet aussi qui maintenant s'est inscrit. 10 ans, c'est beaucoup hein, pour des projets qui existent sur Internet. Hein, donc, on a vraiment pu trouver notre place, notre public. On a aujourd'hui 90 000 visiteurs uniques, visiteuses uniques sur notre site tous les mois. Donc, pour un site spécialisé, c'est quand même un très bon résultat. Et donc, en effet, le but était à l'époque, et encore aujourd'hui, de contribuer à une réécriture d'histoire de l'art de manière paritaire. Ça s'inscrivait dans la continuité de l'aventure de Elle, parce qu'au moment où cette équipe curatoriale travaillait sur l'exposition, il et elle sont aperçus qu'en fait, il y avait parfois des œuvres qui existaient dans des collections, qu'on connaissait les noms des artistes, mais on ne savait rien sur ces artistes.
Il n'y avait aucune info, pas d'archives.
On ne savait pas. Et peut-être les archives existaient quelque part, mais on ne savait même pas où les chercher. On ne savait pas où est-ce qu'elles ont été formées. Je ne sais pas si elles étaient formées dans les écoles privées ou à l'Académie des Beaux-Arts, ou est-ce qu'elles ont. Enfin, l'École des Beaux-Arts, ou est-ce qu'elles ont été proches de certains mouvements ou d'autres artistes plus connus, hommes et femmes. En fait, on ne savait rien. Et cette information était difficilement accessible parce que je ne veux pas dire quand même que Ewer, de ce point de vue, est un projet pionnier. C'est un projet très important aujourd'hui, très consulté. Mais bien évidemment, l'histoire de l'art féministe ne commence pas avec Ewer, comme ne commence pas avec Instagram. Elle a déjà plus de 50 ans et c'est important de le rappeler. Donc on s'inscrit dans une continuité, y compris en France. Il y a des historiennes de l'art qui travaillent depuis très longtemps.
Mais le travail de Ware, justement,
c'était de rendre ça aussi plus accessible.
Pour, justement, les curateurs et les curatrices d'exposition.
Oui, c'est ça, de créer un outil. Ouais. Donc, en effet, la différence, peut-être, qui est celle des Ware, c'est que ça a été pensé tout de suite comme un outil en ligne. facilement accessible, bilingue, très illustré. On travaille beaucoup sur les images. On travaille avec une iconographe professionnelle que je salue à cette occasion, Consuelo Crulci, qui nous aide beaucoup à illustrer le site. C'était très important dès le début. Donc, il n'y avait pas encore Instagram, en tout cas pour nous. Hein. Enfin, peut-être que ça existait déjà comme médium, mais on n'avait pas encore un compte, mais on pensait déjà de manière visuelle. Pour que ce site s'adresse aux professionnels, bien évidemment, des chercheurs, chercheuses, étudiants, étudiantes dans l'histoire de l'art, mais aussi au grand public.
Alors, effectivement, on a un peu évoqué pas mal de choses déjà dont je voulais qu'on parle.
De ton scénario.
Non, mais c'est pas grave, parce que ça va se recouper, donc c'est génial. Mais c'est vrai que, voilà, pendant... C'est tombé, ça y est. Voilà. Le rideau est tombé, c'est pas très grave. Premier, rien d'autre ne nous tombera dessus.
Oui, je regarde l'écran, j'ai l'impression qu'en fait, on est les seuls à le voir.
Ça se voit un peu, mais c'est pas grave. On voit pas grand-chose, mis à part un peu de scotch sur la vitre. Donc, pour en revenir quand même à notre sujet, et puisque l'idée, c'est de parler de l'écriture de l'histoire de l'art, c'est vrai que pendant très longtemps, comme tu le disais un peu, Mathilda aussi, en école d'histoire de l'art... on ne se posait pas de questions. Et d'ailleurs, pendant très très longtemps, la Bible de l'histoire de l'art, la fameuse l'histoire de l'art d'Ernest Gombrich, ne comprenait pas de femmes. Et ça, c'était vraiment la Bible pour tous les étudiants et les étudiantes de l'histoire de l'art.
Avait l'ambition d'être une histoire de l'art universelle.
Voilà, c'est ça. Donc du coup, qu'on imaginait en tout cas inclusive. Gros ouvrage publié en 1950, pendant très longtemps, on s'est référé à ce livre qui ne contenait pas de femmes. Et ça a changé maintenant, heureusement. Mais quand on a ça en tête, c'est là où en fait on se dit, mais en fait cette histoire de l'art, finalement, puisqu'elle ne comptait que des hommes, alors que les femmes artistes ont bien existé, c'est qu'en fait elle avait été écrite par des hommes. Finalement. Est-ce que c'est pas un peu le cœur du problème quand on revient à la racine de où sont les femmes dans l'histoire de l'art? Et bien tout simplement de ne pas avoir d'archives, comme on disait, de ne pas avoir d'historique, parce que pendant longtemps, les hommes ont écrit cette histoire de l'art et donc n'intégraient pas les femmes.
Oui, c'est une partie de la réponse à la question, je pense. C'est-à-dire que bien évidemment... pendant longtemps, l'histoire de l'art, comme n'importe quel discours d'ailleurs, de public et de création et de diffusion de connaissances, était vraiment dominée par les hommes. Ça, c'est sûr, c'est vrai. C'est encore une fois la question, justement, comme pour Pénélope, qui parle, qui a le droit à la parole publique, qui a le droit à l'autorité de diffuser des connaissances, qui est pris au sérieux lorsqu'il parle publiquement, il ou elle, mais pour le coup, c'était des hommes pendant très longtemps. Donc, c'est sûr que c'est une partie de la réponse à la question, mais je ne dirais pas que c'est tout, parce que les femmes ont aussi, par leur éducation, aussi bien, je dirais, cette formation universitaire, etc., mais aussi sociale, tout simplement, ont intégré pendant longtemps ce biais dans l'histoire de l'art. Donc, on parlait de nos études, du temps, du fait que ça a pris du temps de se rendre compte, mais c'était le cas aussi avant nous, des générations de conservatrices, d'historiennes de l'art, pas toutes, bien évidemment. Il y a eu en France Aline Dallier, Léa Vergine en Italie, ou bien évidemment la fameuse Linda Nochlin, presque fondatrice de la discipline aux États-Unis et d'autres. Mais je pense que, oui, c'est-à-dire que c'est forcément comme toute construction sociale qui doit être déconstruite, c'est extrêmement complexe, c'est lent à défaire, et on ne peut pas donner une seule réponse à quelque chose qui englobe en fait des centaines de développements, d'années dans le développement d'une société.
Oui, bien sûr. Mais c'est sûr que c'est évident que ce n'est pas la seule réponse, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose qui a joué énormément. Pourquoi ? Parce que justement, les conséquences que ça a eu derrière, ça a été notamment ça a créé des initiatives comme WARE.
Oui, oui.
Voilà. Et justement, si on parle conséquences, C'est quoi concrètement les conséquences de l'écriture d'une histoire de l'art uniquement au masculin?
Bah déjà toute cette représentation mentale qu'on a d'artistes femmes, bah déjà, enfin d'artistes, c'est-à-dire que justement pourquoi on parle d'artistes femmes encore et toujours, et parfois on nous reproche cela même. Ah ouais, peut-être aujourd'hui un peu moins, mais il y a quelques années c'était encore présent. On disait, ah, vous ghettoisez les femmes, pourquoi faire un site d'artistes femmes?
Ça a été une critique qui avait été faite d'ailleurs à
elle,
à Camille Morino.
Ouais. Oui, oui, c'est ça. Et ma réponse. Enfin, je pense qu'on peut donner plusieurs réponses, mais la mienne, elle est assez simple. C'est que si on est obligé de préciser femme à côté d'artiste, c'est que dans la représentation mentale, encore aujourd'hui, même en 2023, quand on entend artiste, on voit d'abord, on imagine un homme. Et c'est tellement ancré, tellement ancien, ça prendra encore du temps à être entièrement...
Oui, c'est nécessaire de passer par là, oui, pour mettre des coups de projecteur, en fait.
C'est ça.
Et alors... Parmi ces conséquences, donc il y a le fait de pas avoir de ressources pour travailler, donc comme tu disais, lors d'expositions, quand on a des œuvres auxquelles on peut pas raccrocher ni d'époque, ni d'endroits géographiques, ni et moi je me souviens quand j'avais fait justement une interview de Camille Morino qui me disait mais il y a certaines professionnels du monde de l'art qui du coup, se disent, tant pis, je ne travaillerai pas avec cette œuvre qui est super, mais pendant longtemps, ça a été ça pour certaines personnes.
Ça a servi de bonne excuse.
Mmh. Oui. pour ne pas mettre d'artiste femme en avant. Il y a un autre pan à l'écriture, à cette écriture purement masculine de l'histoire de l'art, c'est du coup la représentation des femmes dans l'histoire de l'art.
Ça, c'est un sujet.
Toi,
ouais.
Je me tourne vers toi, Ludivine. Et j'en profite pour redonner le nom de ton livre. Je pense que d'ailleurs, je peux l'afficher. Voilà, il est carrément affiché à l'écran. Donc, « Imparfaite, représenter la femme dans l'art occidental entre fantasme et domination masculine ». Eh bien, écoute...
tu peux regarder.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Je te laisse nous en dire plus.
Non, mais c'est juste partir du simple constat que l'art est souvent le reflet de l'époque dans laquelle il a été produit. Et du coup, comme on le disait, comme l'art a été longtemps l'apanage d'hommes principalement, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'ils ont représenté les femmes, les personnages féminins dans leurs œuvres, avec souvent les biais sexistes et misogynes qui vont avec le package. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce que j'aborde dans mon livre, c'est que c'est vraiment la femme vue sous plein de facettes, donc la beauté idéale, passive, sexualisée, évidemment, j'appelle ça des pin-up, toutes ces Vénus allongées sur des plages. On a la bonne épouse, la bonne mère, qu'on peut rapprocher de la Vierge Marie. Et ensuite, dès que la femme exprime son potentiel de séduction, elle devient fatale, elle devient castratrice. Donc les œuvres agissent presque comme des mises en garde. Et ensuite, le pire, je crois, vraiment, toutes les scènes de violence exercées sur des personnages féminins qui peuvent aller jusqu'au viol. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les artistes se sont emparés de ces sujets qui sont souvent mythologiques, enfin issus de la mythologie, ou de récits historiques rapportés de l'Antiquité gréco-romaine. Comment est-ce qu'ils représentent ces scènes qui, dans leur substance, très violente et parfois même visuellement, comment nous, dans un musée, quand on se retrouve face à ce genre d'œuvre, comment on est presque anesthésié, d'une part par le lieu dans lequel on se trouve, les musées qui sont souvent impressionnants architecturalement parlant, et aussi l'œuvre en elle-même dans sa qualité d'exécution. Alors encore mieux si c'est un grand maître qui l'a réalisé, et tout de suite on est comme ça devant, et du coup il y a une forme de banalisation de ces violences exercées sur des femmes, et aussi une sublimation en fait, où vraiment la violence flirte avec l'esthétique vraiment très très haute.
Et la jouissance.
Voilà, et j'allais y venir tout à fait, la jouissance masculine qui s'exprime sur une femme où la violence se mêle au désir sexuel aussi, parce que 90% du temps, 99% allez, peut-être, les femmes qui se font agresser sont très souvent nues, très belles. Là aussi, on a l'adage « la beauté justifierait la violence, elle a bien cherché, etc. etc. » Et donc, toutes ces images, en fait, que je viens de vous énumérer succinctement, ce sont des images qu'on retrouve aussi dans notre société, que ce soit dans les arts visuels, je pense au cinéma ou la mode, etc. Et donc, je pense que c'est important, même essentiel, de les interroger, ces images, parce qu'elles ont... Elles ont quelque part un pouvoir, puisqu'elles sont le socle de, elles font partie du socle de notre culture visuelle. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire dans mon livre, en croisant étroitement histoire, surtout histoire des femmes et histoire de l'art, pour vraiment essayer de comprendre pourquoi les hommes, à telle époque, on les a représentés de telle manière, comment est-ce qu'on percevait les femmes à ce moment-là, et comment ça se traduisait visuellement dans les arts, voilà.
Gros travail que tu as fait dans ce livre, pour le coup. Ça a dû te prendre pas mal de temps.
Comment tu as travaillé ?
Alors, j'avais une bonne base, déjà, par rapport à mon compte Instagram, toutes les recherches que j'avais déjà pu mener 2 ans auparavant, plus des visioconférences aussi que thématiques que je propose. Plus des recherches dont j'avais jamais vraiment rien fait, enfin, des choses qui s'entassaient. Donc pour débuter l'écriture concrètement, j'avais déjà une base de ressources, plus évidemment ma bibliothèque avec tous les livres voilà, qui se rapportent à ce, enfin, qui font écho à ce sujet-là. Mais l'écriture en tant que telle du livre, ça m'a pris 1 an.
Ok, voilà. Full time.
Ouais, quasiment. Enfin. Je continuais à travailler à côté, mais oui, c'était tous les jours, j'avais un temps d'écriture consacré quasiment. Ouais.
Et moi, ce qui m'a interpellée, c'est que tu voulais quand même garder un temps accessible avec parfois un peu les jeux de mots ou je sais plus, balance ton Zeus ou la mort leur va si bien. Ça, c'était une stratégie aussi, un peu de temps, je veux dire.
Oui, parce que c'est ce que j'ai constaté qui plaisait sur mon compte, c'est que j'ai un ton un peu... c'est de ma personnalité aussi. J'aime bien faire part de mon humour. Parfois, ça prend pas. Voilà. Et je voulais que ça se ressente dans l'écriture où voilà, je me permets de faire des petites blagounettes de temps en temps, quand ça s'y prête, évidemment. Je ne fais pas de blagues sur des viols ou quoi que ce soit. Non. Mais oui, je voulais un ton léger quand ça s'y prêtait, pour déjà rendre la lecture un peu plus digeste, parce que j'aborde des sujets assez lourds. Donc, le seul chapitre où j'ai vraiment pas pu avoir un ton léger, c'est celui sur les enfants sexualisés et le regard pédocriminel sur des enfants dans l'art. Là, c'était juste impossible. Non, ce qui s'y prête le mieux, c'est quand je raconte des mythes, par exemple, où je parle de personnages masculins. Là, je me prive pas pour employer des petits...
Et alors, c'est intéressant parce que tu l'as bien dit, Mathilda, évidemment, ça date pas d'aujourd'hui d'avoir un regard critique sur cette histoire de l'art, d'avoir un regard féministe. Il y a eu beaucoup d'artistes ou de militantes ou de critiques ou d'historiennes aussi pour le faire. En premier lieu, tu cites Linda Nochlin, qui a écrit ce dont on connaît finalement une citation aujourd'hui, mais qui est un texte vraiment très extrêmement intéressant et dense. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de femmes artistes? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes? À chaque fois, je la connais mieux en anglais qu'en français. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a Instagram, par exemple, pour essayer de diffuser le plus largement possible ces sujets, pour essayer de vulgariser aussi. On a des associations comme Aware qui œuvrent vraiment au quotidien à mettre la lumière sur toutes ces femmes artistes. Moi, j'ai une question parce que dans cette grande, ce travail qui est immense, qui est celui de réécrire, ou en tout cas d'ajuster un petit peu ce qui a été écrit, beaucoup même, de réécriture de cette histoire de l'art, comment on fait finalement? Comment est-ce qu'on aborde ce sujet qui est vaste? Et je pense notamment au fait que sur Aware, c'est des centaines, voire des milliers de biographies d'artistes qui sont disponibles aujourd'hui. Comment vous travaillez?
Je pense qu'on a des méthodes très différentes. À Aware, on aborde le sujet par l'écriture collective. Collective ne veut pas dire qu'on écrit ensemble des textes. Ça ne veut pas non plus dire que l'équipe Aware écrit tous les textes, d'ailleurs loin de là. C'est que en fait, notre site est vraiment pensé comme une plateforme qui est menée par l'équipe, mais qui, sur laquelle on publie des textes écrits par des autres. En général, les historiennes de l'art, très souvent spécialistes de leur sujet, c'est pour ça qu'on peut travailler d'ailleurs sur l'art, pas seulement occidental, parce qu'on fait appel à des spécialistes, je ne sais pas, au Nigeria, au Sénégal, au Pérou, au Japon, ou bientôt en Asie du Sud-Est aussi, parce que ma collègue travaille sur un projet de recherche lié à cette région. Donc, en fait, pour arriver à saisir toute la complexité du sujet, on s'appuie sur des autrices et des expertes du monde entier. C'est ça la méthode Aware. Qui nous permet en fait de trouver le temps juste sur des problématiques qui sont très différentes, c'est-à-dire la question d'invisibilisation des artistes femmes à Paris déjà n'est pas la même que dans d'autres villes en France, parce que ce rapport de centre périphérie il peut aussi être déployé à la micro-échelle d'un pays. Et encore plus lorsqu'on sort de l'Occident, lorsqu'on est confronté à des langues moins connues et à la difficulté de trouver des images, le fait qu'il y a des pays où il y a moins d'institutions, donc en fait on a parfois du mal à trouver des œuvres. Et pour cela, on ne peut travailler qu'avec des expertes. Donc Aware, en effet, c'est un travail des centaines d'auteurs. D'auteurs, parce qu'il y a parfois aussi des hommes, qui bien sûr ont leurs textes signés. On travaille quand même de manière très correcte de ce point de vue. Je veux dire, déontologiquement, tout le monde reçoit une rémunération pour les droits d'auteur, etc. Donc c'est un site qui se veut aussi éthique de ce point de vue. Donc voilà. Donc il y a d'autres réponses certainement, mais celle d'Aware est de passer par les collectifs. Et si on parle des nombres, en effet, cette année, on a dépassé le seuil de la millième notice biographique sur le site. Donc, on n'a toujours pas fêté, on n'a pas eu le temps, l'équipe, de faire, faire une fête pour fêter, pour célébrer cette millième notice, qui était Louisiane Saint-Florent, qui était une artiste haïtienne. Donc, on était aussi ravis, justement, que ce chiffre symbolique soit une artiste, pour le coup, pas très bien connue en France et à qui on a pu apporter un éclairage supplémentaire. Donc 1000 notices, c'est peut-être pas 1000 auteurices sur le site Aware,
c'est quand même,
mais quelques centaines.
Ouais. Et toi, Ludivine, comment est-ce que tu travailles? Est-ce que c'est au gré de tes découvertes, de tes lectures, ou est-ce que tu as... On a compris que la mythologie, c'était quelque chose que tu aimais particulièrement.
J'ai vu, en effet. Ouais. En même temps, c'est nécessaire lorsque tu essaies d'analyser la peinture du XVIIe, XVIIIe siècle en Europe. Tu es obligé de passer par là.
Dès la Renaissance, il y a des représentations de récits mythologiques. C'est surtout de lire sur l'histoire des femmes en Occident. Ouais.
C'est l'histoire des femmes au sens large, vraiment.
Oui, de comment on en revient, enfin, leur place dans la société, dans le foyer aussi. Comment est-ce qu'elles étaient perçues par les hommes de leur époque? Je pense à des écrivains, des médecins. En fait, tous ces hommes qui ont disserté sur les femmes, qui avaient toujours quelque chose à dire sur qu'est-ce que c'est la femme. en fait, ça devient presque mécanique. À partir du moment où on a compris à tel siècle, on pensait ça des femmes de manière générale, enfin les hommes pensaient ça des femmes, on le retrouve très facilement ensuite dans des tableaux en fait. Tout de suite, mais je suis loin d'être la seule à analyser comme ça. C'est vraiment des mécanismes qui se répètent. Le mieux encore, c'est de trouver des écrits d'un artiste qui parle des femmes, comment lui les perçoit. Là, c'est la pépite, c'est bon. et puis sinon, oui, il y a des livres qui m'ont marqué. Je pense à « Woman in Picture » de Catherine McCormack. Qui analyse vraiment l'histoire de l'art de cette façon-là. Et elle, c'est vraiment un essai où elle déroule vraiment sa pensée, comme si elle s'adressait à quelqu'un, en fait. C'est très fluide. Ça existe qu'en anglais pour l'instant. Je crois pas que ça a été traduit en français. Mais ça, oui, c'est un livre qui m'a marquée. Et puis Linda McLean, évidemment. Voilà. Et Michel Perrault. Avec Georges Duby, qui ont écrit « Images de femmes ». Tous les deux se sont penchés là-dessus. Et un livre que c'est Louise Ebel, Miss Pandora sur Instagram, qui en avait parlé. C'est « Les idoles de la perversité » de Bram Dijkstra. Ça fait bien 10 ans qu'elle parle de ce livre et je l'ai acheté, je sais pas, il y a peut-être 6 ans, quelque chose comme ça. Je l'ai trouvé par hasard dans une brocante parce qu'il est plus édité et c'est une folie. Bram Dijkstra analyse comment les femmes ont été représentées dans l'art du 19e siècle et c'est effarant. Enfin, il a un point de vue vraiment féministe et tout ce qui déroule dans ce livre, en fait, c'était que du mind blown tout le temps. C'est vraiment une pépite, ce livre. Donc, Louise, si tu passes par là, encore merci de m'avoir fait découvrir ce livre. Et donc ça, mais d'ailleurs, je le cite beaucoup dans mon livre, c'est vraiment une pépite. Voilà.
Et du coup, je me demandais, puisque c'est vrai que... Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent via les réseaux sociaux, via des podcasts, via même des chaînes Twitch, des chaînes YouTube. Puisqu'on est vraiment sur écrire l'histoire de l'art, est-ce que pour toi, Lydine, c'était important d'avoir cette trace qui est le livre, qui est quelque chose qui reste, qui peut être acheté par des bibliothèques universitaires, qui peut être... mis vraiment à la disposition aujourd'hui de chercheurs, d'étudiants qui vont du coup avoir une ressource supplémentaire. Et c'est génial pour avoir un autre regard aussi sur l'histoire de l'art. Pour toi, c'était important ?
À ma petite échelle, oui. J'avoue, oui, écrire un livre, c'est un peu un rêve qui trottait dans ma tête depuis des années. Donc évidemment, on m'a proposé ça, j'étais plus que... heureuse et oui, si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice, c'est encore une fois, c'est un condensé, c'est vulgarisé. Il y a quelques éléments pointus que je suis allée chercher à droite à gauche, mais
c'est une première porte d'entrée quand même.
Voilà, c'est ça. Mmh. C'est plus comme ça que je l'ai écrit en ce sens, ouais.
Voilà. Et Mathilda, vous chez Aware, donc vous avez un prix aussi chaque année qui récompense des artistes. Femmes, mais on en parlait tout à l'heure justement avant le live, vous éditez et publiez des livres aussi.
Oui, en effet, donc de nouveau, la démarche n'est pas identique, mais justement c'est intéressant de les comparer parce que finalement elles sont assez complémentaires. Nous, on est éditrice ou co-éditrice de livres, donc on n'écrit pas nous-mêmes les livres, en fait, on les édite, on invite les auteurs, autrices à y contribuer. Et donc, dans le cadre du prix Aware, donc le prix Aware, il est donné chaque année au ministère de la Culture. C'est un prix qui a maintenant quelques années. Il est donné à
deux artistes chaque année de deux générations différentes. Donc il y a le prix Nouveau Regard qui est un prix pour une artiste en milieu de carrière et qui cherche donc à apporter un éclairage supplémentaire sur cette carrière qui est déjà établie, mais qui, selon nous, manque de visibilité, qui mériterait peut-être d'attirer plus l'attention des institutions, des professionnels, les œuvres qui devraient intégrer des collections publiques. Donc c'est un des prix. Et le deuxième, qui s'appelle le prix d'honneur, est donné à une artiste qui a déjà une très longue carrière, très confirmée, au moins 40 ans de parcours dans l'art, mais qui n'a pas eu encore de grandes rétrospectives sur laquelle finalement on trouve peut-être pas suffisamment de références, notamment de monographies. C'est très important pour les artistes des études monographiques, des expositions collectives, c'est bien, mais il faut aussi des monographies qui permettent de parcourir une carrière dans sa longueur, de comprendre d'où vient l'artiste artistiquement, comment elle a évolué, où est-ce qu'elle veut d'ailleurs arriver. Voilà, il y a en fait tout ça à analyser. Et donc, dans le cadre de ce prix, nous, on édite des livres qui sont des entretiens avec ces artistes. On les fait en collaboration avec une éditrice parisienne qui s'appelle Manuela Édition, Manuela Vanet. Et l'objectif est de faire parler l'artiste. Donc, cette fois-ci, on inverse un peu... c'est un peu l'inversion par rapport à ce qu'on fait sur le site où on commande des textes à des historiennes de l'art sur les artistes. Là, c'est l'inverse. On invite une historienne de l'art ou un historien de l'art à se mettre au service de la parole de l'artiste, de l'interviewer, ensuite d'éditer cet entretien avec nous pour garder une archive orale du parcours de l'artiste. Et en fait, grâce à ça, on a maintenant édité quelques ouvrages. Là, on travaille sur les deux suivants. On a pu parcourir des vies passionnantes. Certes, c'est des livres qui peut-être s'adressent à un public légèrement plus spécialisé, mais qui, selon moi, reste abordable parce qu'on est dans l'oralité. Ce sont des artistes qui, pour beaucoup, ne sont pas nés en France. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on voit à quel point Paris reste une capitale internationale des arts, malgré le fait qu'on considère que New York lui a un peu volé la vedette après la Deuxième Guerre mondiale. Mais en fait, la plupart des artistes de cette génération-là, donc qui sont des artistes nés dans les années 20, dans les années 30, éventuellement dans les années 40, sont venus étudier, vivre, travailler à Paris après la guerre, dans les années 50, 60. Et c'est le cas des artistes hongroises, comme Judith Regle ou Vera Molnár, qui était une pionnière de l'art numérique. C'est quand même incroyable, une artiste qui s'empare des ordinateurs dès les années 50. Même, en fait, elle invente quelque chose qu'elle appelle une machine imaginaire à la fin des années 40. Enfin, c'est quand même assez exceptionnel comme parcours. Voilà, ou Barbara Chase-Ribou, sur laquelle on travaille maintenant, et qui est une artiste africaine-américaine qui est arrivée à Paris dans le contexte des années 60. Pour qui aussi bien la littérature, parce qu'elle est aussi poète ou poétesse, a joué un rôle important, qui a traversé l'Égypte, Rome, Paris, enfin voilà, sont des aventurières.
Des aventurières, et c'est incroyable du coup de pouvoir leur donner cette parole-là, comme vous le faites. Et c'est vraiment, comme tu disais Mathilda, moi je trouve que c'est très complémentaire.
Oui.
Ça permet à la fois de, voilà, autant ton livre, une première porte d'entrée pour des gens peut-être un peu plus connaisseurs, mais qui ne connaissent pas tant que ça le sujet, mais aussi pour le grand public. Et avec ce que vous faites avec Manuela Édition, ça permet d'aller encore plus loin avec cette parole-là que vous êtes capable de porter.
Et de créer autant, des archives aussi. Au moins, dans quelques décennies, les musées ne pourront pas dire on n'a pas de ressources sur
un tel artiste. Là, il n'y a plus
de... Vous aurez laissé une bonne trace.
A priori.
Oui, c'était un peu le... C'est ça, mais en fait, c'était un peu le projet d'Aware. C'était, je pense, que l'idée que Camille avait derrière, au moment de création de ce projet, était aussi de créer cette démonstration de nombre. Et avec 1000 artistes sur le site, avec ces entretiens, on y arrive maintenant. Oui. C'est un point de non-retour. Plus personne ne peut dire. Le site, il est là, il est accessible. Il suffit de cliquer. Hein, ouais. Donc,
plus personne
ne peut dire « Ah, j'ai fait une exposition, je ne sais pas, à des surréalistes et je n'ai pas exposé des femmes parce qu'il n'y a pas eu de… »
Je vais en profiter pour vous de peintre, regarder.
Surréaliste femme. Bah, en fait, il suffit de. Il y a un moteur de recherche, c'est très simple. On passe par Google, sinon.
J'envoie le lien, voilà, pour les gens qui nous regardent. Je vous partage
regardez,
le lien.
Oui, regardez, c'est pas, vraiment pas difficile. Hein. et oui, il y a des mots-clés. En fait, voilà, c'est pensé de manière assez rationnelle, logique, facile d'accès.
Pareil, je partage ta page Instagram, Ludivine. On en a un peu parlé en pointillé au gré de notre échange. Le sujet des expositions, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a alors, il y a eu cette exposition, elle, à Centre Pompidou, 2008 ou 2009.
Oui, 2008, exactement, je sais plus. 2009-2011, je crois.
Mais qui a extrêmement... qui a eu un fort succès. En revanche, entre cette expo et il y a quelques années, il y a quand même eu un gros gap. Mais on a quand même l'impression... Enfin, moi, j'ai l'impression, ce n'est pas une impression, c'est une réalité, que les institutions prennent soudainement conscience. Alors, il y a deux choses. Il y a non seulement que les femmes artistes, sont là et ont une œuvre qui est très conséquente. Et voilà, et donc, il y a un intérêt.
Oui, il y a un public pour ça.
Il y a un public. Il y a aussi... c'était Agnès Turnauer, qui est une artiste que vous connaissez peut-être, que j'avais interviewé dans mon podcast et dans mon livre, qui disait, il y a un peu le sentiment que il y a aussi une redécouverte entre guillemets d'artistes passé un certain âge et qu'on se dit artiste passé un certain âge ou voire décédé est égal blockbuster. Et donc il y a un enjeu aussi un peu où on se pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez justement de tout ce regain d'intérêt de la part des institutions culturelles aujourd'hui pour les artistes femmes? Tu disais tout à l'heure que tu étais gênée parfois par le fait qu'on
ait toutes les femmes dans le même... Je pensais à celle qui a eu lieu au musée du Luxembourg, Pionnière, où les œuvres étaient remarquables. Enfin, c'était super beau à évoluer là-dedans et tout. On a été un peu dérangés, oui, avec des amis, qu'on passait d'une salle à une autre. Je sais pas, on avait du mal à voir la cohésion dans tout ça, à part que c'était des artistes de la première moitié du XXe siècle, oui, on a eu l'impression qu'on les avait mises comme ça, tout ensemble, et pionnières, voilà. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais je pense que le mieux, ce serait d'aller vers des expositions, déjà monographiques. On est vraiment concentré sur une artiste femme.
Ou faire les deux.
Ou les inscrire dans un mouvement, je dis n'importe quoi, par exemple le surréalisme, et qu'il y ait autant d'artistes hommes que d'artistes femmes, pour montrer que les femmes artistes ne flottent pas au-dessus de l'histoire de l'art et qu'elles font partie d'une continuité aussi dans l'art. Voilà. Mais bon, oui, c'est en même temps, je me dis, pour le grand public, peut-être qu'il faut encore de temps en temps des expos comme ça pour faire coucou, les artistes femmes sont là. Je sais pas. Ou alors peut-être qu'on en a déjà trop vu de ce genre d'expos. Bon,
qu'on a besoin d'aller plus loin. C'est peut-être ça aussi, justement.
Ouais.
Mathilda,
qu'est-ce que tu en penses?
Pour moi, c'est assez compliqué de répondre par rapport aux pionnières, parce que c'était une exposition faite par Camille aussi. Enfin, pas par Ewer. Donc, en fait, je ne peux pas tellement... Oui. En fait, je ne peux pas parler au nom d'Ewer, parce que nous n'avons pas travaillé sur cette exposition. C'est un projet personnel que Camille a fait avec une autre commissaire qui s'appelle Lucia Pesapan, qui travaille avec... Elle travaille souvent en duo. En effet, c'est un parcours où moi j'étais heureuse de voir certaines œuvres, notamment d'artistes aussi polonaises qu'on voit rarement à Paris, comme Bella Mutel ou Tamara Delempicka est intéressante aussi parce que pendant longtemps c'était un peu une artiste sur le mug, enfin vous voyez, un peu l'image pop, mais pas forcément prise au sérieux par le milieu artistique. Et je pense que le fait de la mettre dans le contexte d'un musée, qui reste quand même, c'est une institution de la RMN, c'est prestigieux, ça a permis de montrer que c'est quand même... Voilà, une artiste avec une vraie démarche, dont la vie aussi était assez peu conforme à ce que était la société de l'époque. Elle était bisexuelle, elle l'affirmait, on le voit dans ses œuvres. Enfin, donc, tout ça, je trouvais intéressant. Après, bien évidemment, il y avait des choix dans cette exposition qui n'auraient peut-être pas été les miens. Je peux répondre par rapport au titre, parce que je pense que le titre dit beaucoup de choses par rapport à la réponse que j'aimerais donner au sujet des musées. Il me semble que les commissaires initialement voulaient donner un autre titre et qu'en fait on les a un peu encouragés à donner un titre court et qui attire l'attention. Et c'est vrai que les mots pionnières attirent l'attention. On dit ah oui, donc c'était les femmes, il y a vraiment cette idée d'avant-garde, d'être le premier quelque part, la première quelque part, et que ça attire l'attention. Et je pense que le choix s'est fait probablement pour des raisons de communication.
Oui, bien sûr.
Mais pourquoi je rebondis là-dessus? Parce que je pense qu'avec les expositions, on est un peu là. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est mieux que jamais. Aujourd'hui, à Paris, en même moment, on a Germaine Richer au Centre Pompidou, il y en a Eva Berman au MVP, il y a Myriam Kahn juste en face au Palais de Tokyo, pour donner juste trois exemples. Et ça, c'est extra, c'est génial.
Il y en a autant en même temps.
Et ce sont toutes les expositions.
Il y a Sarah Bernhardt.
Faye Feingold au musée Picasso, c'est quand même pas rien. Picasso, la figure, qui est quand même une figure extrêmement ambiguë pour les féministes, si ce n'est même clairement à rejeter. Et donc, montrer cette artiste qui, à la fois, était une artiste féministe et aussi une artiste... africaine, américaine, qui a clairement eu des revendications politiques pour sa communauté, enfin communauté au sens américain du terme, c'est politiquement un statement, une prise de position de la part du musée que je trouve forte. Et c'est une artiste que, par ailleurs, j'aime beaucoup, dont j'ai vu l'exposition à la Serpentine Gallery. Mais au fait, je pense, ce à quoi il faut faire attention avec des institutions, c'est que justement, il y a parfois des effets de communication. Et que les expositions peuvent attirer beaucoup d'attention, peuvent attirer du monde. Ça, avec elle, on a vu, il y avait 2,5 millions de visiteurs. C'est énorme. Mais ça montre aussi à quel point le public, déjà à l'époque, était prêt pour accueillir une exposition où il n'y avait que des artistes femmes, alors que la presse avait l'air beaucoup plus divisée.
Je l'ai vu trois fois.
tu vois, tu étais plus prête que la presse de l'époque, ou certains professionnels aussi du monde de l'art qui disaient « Ah non, c'est pas les bons moments. » Et pourtant, le public était là, donc clairement, c'était les bons moments.
Il y a toujours du monde.
Et donc, je pense que... Enfin, pardon, parce que je ne vais pas monopoliser la parole, mais c'est juste pour dire qu'en effet, aujourd'hui, les expositions, elles envoient une programmation assez constante d'expositions d'artistes femmes, y compris monographiques, avec des belles publications, c'est une chose. Mais après, il y a aussi des collections, il y a aussi ce qui se passe dans les expositions collectives qui sont plus thématiques. Ouais. Combien d'artistes femmes il y a réellement là-bas? Et donc, lorsqu'on creuse et on regarde des statistiques, là où les statistiques sont possibles, en France, c'est parfois compliqué les statistiques, mais il y en a, en fait, on se rend compte que c'est beaucoup moins spectaculaire comme avancée.
Oui, ça me fait penser à Au Guérilla Girls.
Oui. Oui, ça, c'était les années 80, mais au fait, il y a une étude... Ça, c'était des années 80, et bien évidemment, c'est mieux qu'à l'époque. Mais une étude américaine a récemment montré qu'entre 2008 et 2020, les 30 principaux ou 20, je ne me souviens plus exactement des chiffres, musées américains n'ont acheté que 11%. Enfin, 11% des acquisitions étaient des œuvres d'artistes femmes. Et lorsqu'on pense à des artistes racisés, c'était vraiment 0,5.
Et c'est là aussi, pardon de te couper, mais où il y a quelque chose quand même qui se joue, c'est que l'écriture de l'histoire de l'art, elle se fait là aussi, en fait. À cet endroit de qu'est-ce qui se trouve dans nos musées, en fait.
Ah bah oui, bien évidemment.
Qu'est-ce qu'il y a dans nos musées, parce que c'est bien joli, effectivement, d'avoir des grandes expositions, et on est ravis, comme vous le disiez précédemment.
Mais... c'est un très gros travail voilà. aussi qui est fait par ces conservateurs, conservatrices, qui les font. Hein.
Et, c'est un autre enjeu qui est peut-être encore plus important.
Dans les collections permanentes,
oui. Ah oui. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Et là-dessus, Aiwer, on suit quand même l'Observatoire de l'égalité, qui est un instrument officiel du ministère de la Culture, qui surveille ces choses-là. On regarde des statistiques américaines, etc. Il y a des améliorations. Globalement, il y a des améliorations. Par exemple, le Fonds national d'art contemporain en France achète autour de 47-48% depuis ces dernières années d'œuvres d'artistes femmes. Donc, c'est presque la parité. Enfin, vraiment, peut-être à un ou deux noms près, on a la parité. Donc, c'est déjà pas mal. C'est mieux que jamais. Mais en fait, le problème, c'est qu'on parle d'une histoire des institutions pour un pays comme la France, qui a une histoire institutionnelle très longue et quasiment ininterrompue. On parle d'un rattrapage de 200 ans d'histoire, voire plus, parce que si on inclut là-dedans des collections royales qui étaient nationalisées, c'est même pas en 10 ans d'acquisition paritaire qu'on va le rattraper. En fait, il faut des années de politique volontaire pour qu'on voit vraiment le résultat.
Et au gré justement de nominations aussi de personnes qui peuvent être plus ou moins intéressées par ce sujet. C'est sûr. Quelle relation justement, Aiwer, vous avez avec les institutions? Est-ce que vous avez des relations avec les institutions et quelles sont-elles?
On est une association, donc nous-mêmes, on est une structure aujourd'hui qui n'est pas une institution, ce qui nous donne une flexibilité, une certaine mobilité, parce qu'on a une petite équipe, mais on travaille très souvent avec des institutions. On est proche d'un certain nombre d'institutions françaises. Là, la semaine dernière, on a co-organisé un colloque avec le Centre Pompidou, donc dans le cadre de l'exposition Germaine Richer, justement, avec le Petit Palais, dans le cadre de leur exposition Sarah Bernard, parce que j'ai oublié de mentionner, il y avait aussi Sarah Bernard au Petit Palais, avec l'INHA, l'Institut National d'Histoire de l'Art, et avec le musée d'Orsay, qui en ce moment n'a pas d'exposition d'artistes. Enfin, non, je les encourage à penser. Mais je sais que dans les années, je pense en 2025 ou 26, ils ont programmé quand même des expositions importantes d'artistes femmes. Je pense qu'ils vont dévoiler les programmes bientôt. Donc, on travaille très régulièrement avec des institutions. Et notre rôle est double, c'est-à-dire à la fois, on est là pour, comme une sorte de ressource scientifique, de communication aussi, pour toutes ces initiatives entreprises par ces institutions. Mais on est aussi un instrument un peu de, j'ai pas envie de dire de surveillance, mais le fait même qu'on existe et qu'on nous sollicite aujourd'hui de plus en plus souvent. C'est-à-dire qu'au début de l'existence de l'association, c'était plutôt Aiwer qui sollicitait les institutions. Aujourd'hui, c'est quasiment l'inverse. On a une toute petite équipe, donc en fait, on doit choisir dans des propositions de collaboration qu'on reçoit. Et je pense que le fait même qu'on existe, quand le site est si consulté...
Ça met une certaine pression.
C'est ça, je pense que clairement notre existence dans l'écosystème artistique français n'est pas neutre de ce point de vue.
Alors, à votre avis, on a abordé pas mal de sujets, mais d'après vous, qu'est-ce qui reste à faire aujourd'hui pour, j'ai envie de dire, continuer ce travail, peut-être continuer aussi à sensibiliser avec un regard un peu plus critique sur cette histoire de l'art. Est-ce que toi d'ailleurs, Ludivine, tu as d'autres projets en cours?
Là, tout de suite, non. Mais enfin, si on parle encore des relations peut-être avec des institutions culturelles, je sais pas. Dans quel sens tu m'as de poser la question.
Ouais, non, je te disais, d'après toi, qu'est-ce qui reste à faire autant côté institution culturelle que même côté sensibilisation du public, côté et dans cette idée-là, est-ce que toi, t'as des projets justement en cours dont tu voudrais parler?
Il faut continuer à, je pense, on parlait de vulgarisation, il faut continuer votre travail qui est plus que précieux, et injecter aussi des moyens dans la recherche, je pense.
Mmh. Ouais, c'est important.
On ça, l'a pas c'est dit. Très bonne
ouais.
remarque.
C'est ouais. Plus qu'important, parce qu'on manque beaucoup en France.
Plus de doctorats financés. Voilà. Par exemple, les doctorantes qui travaillent sur ces sujets-là puissent réaliser leur thèse dans des bonnes conditions. C'est très rarement le cas. Ouais,
c'est ça. Mmh. Et que leur travail soit davantage valorisé aussi. Et non, mais après, je pense que j'ai dit l'essentiel. Je commence un peu à fatiguer. Je me suis sentie m'éteindre pendant que je répondais.
Non, tu n'es pas éteinte. Il est 20h25, c'est pour ça qu'on arrive sur la fin de ce live.
C'est ça.
Voilà.
Et tu as dit que ça allait passer vite.
Oui, c'est ce que j'avais
raison. C'est vrai que c'est passé vite.
On revient la semaine prochaine. Hein.
C'est avec plaisir. Avec grand plaisir.
Ah oui. Non,
j'ai quand même une dernière question pour toutes les deux, parce que voilà, on est dans le book club de Mademoiselle. L'idée, c'est de parler de livres. Est-ce que on en a déjà un peu parlé, d'ailleurs j'ai pris bonne note de certains qui me tentent bien. Est-ce que vous avez des lectures à recommander aux personnes qui nous regardent pour aller plus loin ou sur
oui.
artiste spécifiquement peut-être?
Une place de Eva Kirilov. qui est un essai graphique illustré par Mathilde Lemiel, je ne sais pas si on dit Lemiel sous Lemiel, voilà. Qui est une vraie bible, qui vraiment, Eva analyse vraiment la place des artistes femmes dans l'histoire de l'art, dans les sociétés dans lesquelles elles ont évolué en Occident, etc. Et c'est drôle en plus, c'est merveilleusement bien illustré. Et ça se lit facilement et ça ouvre plein de pistes de réflexion, donc je conseille à celui-là. Et sinon, d'un point de vue purement historique, tous les livres de Michel Le Perrot sur l'histoire des femmes en Occident, ouais, c'est juste accessible et c'est brillant, voilà. Et Bram Dijkstra, si vous le trouvez, Les idoles de la perversité.
On a compris que c'était un peu compliqué de le trouver.
Peut-être du coup. Un PDF en ligne. Ouais.
Non, il faut regarder sur les sites de vente de livres d'occasion.
Parce que tu nous l'as quand même bien teasé. Mathilda.
En ce moment, je travaille sur une artiste polonaise, donc je peux vous dire que je lis surtout en polonais. Donc ça, c'est peut-être pas les recommandations ne sont pas les recommandations pour la plupart des lecteurs, lectrices ici. Ah oui, je sais, récemment j'ai lu un essai très court et je trouvais très juste dans le temps intelligent de Laure Murat, Qui annule quoi, sur la cancel culture. Donc c'est édité, je pense, chez Seuil. C'est vraiment un tout petit livre, ça se lit dans métro qui pose des bonnes questions et argumente pour qu'on comprenne mieux quels sont les enjeux derrière les débats qu'on appelle souvent en français, repris ce terme américain de cancel culture, mais qui est vraiment ce débat de la réécriture de l'histoire, parce qu'en fait, au fond, c'est à ça que nous œuvrons aussi, et de remise en cause des systèmes de valeurs qu'on a pu apprendre dans
super,
nos années.
Qui annule quoi sur la cancel culture?
Je
note aussi en même temps. Moi, j'en ai un à vous recommander aussi, que je viens de débuter. Et justement, je ne sais plus laquelle de vous deux tout à l'heure disait, c'est intéressant de voir ce que les artistes disent aussi des femmes. Je crois que c'était toi, Ludivine, et la façon dont ce qu'ils ont écrit sur les femmes. Et je viens de le commencer, c'est « Une femme regarde les hommes regarder les femmes ».
Ah oui, de Siri Hufstedt.
Voilà.
Oui,
exactement. Siri Hufstedt, prononce très certainement mal son nom de famille. C'est vraiment un livre qui s'intéresse au féministe gaze.
Génial.
Et surtout au male gaze, à vrai dire.
Oui, c'est un sujet pour toi. C'est un livre pour toi.
Voilà, complètement. Il est sorti en 2019.
Je suis
chez Actes Sud. Et voilà, je viens de le commencer, mais c'est
trop bien.
Vraiment une pépite, je pense. Merci beaucoup à toutes les deux.
Merci.
C'était passionnant. Je pense que vous pouvez clairement revenir la semaine prochaine. Normalement, c'est tous les mois le book club, mais vu que c'était hyper intéressant.
On a déjà déroulé nos matelas.
C'est ça. Vous ne voyez pas, vous qui nous regardez, mais le studio est assez grand. Et à la place, pour les matelas, il y a des multiprises. Ils ne sont pas des multiprises, qui sont des.
Et il y a le décor derrière qui est tombé, qui va servir de tente.
Ou... Exactement, ou de couverture peut-être.
C'est ça.
On a déjà le dress code, puisqu'on est toutes les deux en mode.
Exactement, voilà. Moi, j'avais loupé le dress code, mais c'est pas grave. Donc, merci beaucoup à toutes les deux. Et voilà, encore une fois, on peut retrouver tout le travail de Aware sur le site internet que j'ai mis dans le chat. Donc, c'est awarewomanartist.com. Et sinon, sur Instagram aussi, vous avez quand même 25 000 followers. C'est pas rien.
Oui, on a dépassé les 25 000récemment.
Et donc, ton compte Instagram, Nudivine, aussi, mieux vaut tard que jamais.
Mieux vaut art, oui, parce que des fois...
Oui, alors moi, je le prononce mieux vaut tard que jamais.
Non, mais je le dis, si les gens veulent l'écrire...
Oui, voilà, mieux vaut art.
C'est mieux vaut art, mais avec la liaison.
Et c'est pas tard.
Petit jeu de mots.
Ou alors, si vous écrivez mieux vaut tard que jamais... Eh ben non, ça marche pas non plus. J'allais dire, il faut mettre un D à la fin. Mais ça marche pas non plus.
Ouais, c'est vraiment mieux vaut art.
Mieux vaut art, c'est ça. Voilà, moi, je me suis fait avoir par le jeu de mots. Je vais toujours prononcer comme ça.
Mais moi aussi, je le prononce comme ça. C'est pour l'écrire, c'est ça.
Ouais. Et donc, ton livre qui est publié aux éditions First, Imparfaite, qu'il faut vraiment que vous lisiez. Voilà. Merci à tous et à toutes de nous avoir regardés. Et à très bientôt pour un prochain book club. Et celui-ci sera dispo en replay sur YouTube et en podcast. Voilà. Donc, si vous voulez aussi le dire.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.